France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
7h40 sur France Culture, le premier invité de ces matins du lundi. Un passage par les matins de France Culture et puis s'en ira à Montpellier pour y recevoir, dans le cadre de nos rencontres, le prix Pétrarque de l'essai France Culture Le Monde, qui récompense chaque année un essai d'intervention. Le sien, La France d'hier, récit d'un monde adolescent des années 50 à mai 68, paru chez Stock, et ce qu'on appelle un livre d'éco-histoire, écrit à la première personne pour faire comprendre de l'intérieur le climat d'une époque. Non pas un livre de jeunesse, mais un livre sur la jeunesse des années 60, qui a vécu l'événement loin de Paris, du boule-miche et des beaux-arts. En mai 68, lui, il avait 17 ans, à Caen. Le sociologue Jean-Pierre Le Goff est notre invité. Bonjour.
Bonjour.
Et félicitations. Ravi de vous recevoir aujourd'hui et bravo pour ce prix Pétrarque de l'essai France Culture Le Monde, un prix et un jury qui a salué l'acuité de votre propos pour ce livre écrit pourtant malgré vous, Jean-Pierre Le Goff. Ce livre, je ne voulais pas l'écrire, ce sont même vos premiers mots. Pourquoi ?
Parce que j'ai été éduqué dans l'ancien monde où on avait une certaine difficulté à parler de soi. Donc ça, c'était une première difficulté. Dans mon livre, je parle aussi de la pudeur des sentiments. Je trouve que c'est quelque chose qui s'est largement perdu aujourd'hui à l'heure du grand déballage de la subjectivité débridée. Donc je ne voulais pas entrer dans cet aspect-là. Et bon, après discussion avec mes éditeurs, en fait, il s'est avéré que l'intérêt de la chose pouvait être d'insérer une individualité particulière, mais dans un contexte social historique. Et bon, ça se passe en Normandie, au bout du monde, il y a une histoire familiale particulière. Or, le pari qui est fait, c'est que cette particularité peut faire écho à une situation plus globale, c'est-à-dire à un contexte socioculturel, et avoir, en fonction des lettres que je reçois, d'ailleurs qui ne sont pas simplement de Normands ou d'anciens qui ont connu cette période, je pense que oui, il peut y avoir un certain écho pour faire comprendre de l'intérieur ce qu'était la France d'hier, ce qui, pour les nouvelles générations, constitue en grande partie une véritable préhistoire.
Alors le chiffre de l'édition montre, en cette année de commémoration, une saturation à l'égard de mai 68, plus de 150 livres sur le sujet. Votre France d'hier s'en sort très bien, c'est même un des mieux vendu. Et justement, c'est peut-être parce que le style y est très personnel. C'est un drôle d'objet, cette France d'hier, aussi pour un sociologue, sorte d'anti-manuel de sociologie, sans distance, si ce n'est celle du temps, ni auteur scientifique, si ce n'est une hauteur de vue, un sens critique, qui est le vôtre, naturellement, et votre plume est passablement bien aiguisée, Jean-Pierre Le Goff, pour raconter toutes ces années. Vous avez quand même pris du plaisir à replonger dans ce temps-là.
Oui, c'est à la fois des souvenirs, mais je dirais aussi j'ai travaillé beaucoup avec des archives, y compris des archives de la région, c'est-à-dire la façon comment, finalement, en très peu de temps, la région, la Normandie, mais je pense que c'est valable pour l'ensemble de la France, on est passé avec des restes du 19e siècle, de ce que j'appelle la France d'hier, très rapidement, à une nouvelle société de consommation et de loisirs, et que ce passage rapide a été particulièrement vécu, j'allais dire sensiblement, par les adolescents que j'étais à l'époque. Parce que l'adolescence est le moment du passage de l'enfance à l'âge adulte, et d'une certaine façon, la société allait, je veux dire, liquider, mais elle ne liquidait pas, parce que le pari des élites, c'était de faire un pont entre la filiation historique de la France d'hier et la modernisation. Précisément, ce qui va se passer à partir des années 60, les contradictions vont s'accumuler, et je dirais que l'équilibre que recherchaient les élites modernisatrices de l'époque a été rompu à un moment donné, c'est-à-dire cette tentative de faire un lien entre une très longue histoire et une modernité. Et on peut, c'est une hypothèse que j'avance, bien évidemment il y en a d'autres, mais mai 68 peut être lu comme un moment de catharsis, d'un moment de passage de la France d'hier à la modernité. En ce sens-là, malgré la distance qui nous sépare de l'événement, je pense qu'il nous dit quelque chose sur ce que les élites de l'époque appelaient une crise de civilisation.
Cette modernité qui a chamboulé pas mal de repères, et notamment ceux de cette jeunesse à l'époque. En tout cas, juste pour revenir encore et une dernière fois sur la démarche, sur votre démarche, celle de cet ouvrage. Ouvrage donc on peut qualifier d'égo-histoire. Vous êtes en phase avec Hannah Arendt que vous mettez en exergue. Ma conviction est que la pensée elle-même naît d'événements de l'expérience vécue et doit leur demeurer liée comme au seul guide propre à l'orienter. Et c'est donc le jeu qui reprend aujourd'hui le pas sur le nous, qui a fait la marque de cette époque, comme l'évoquait à ce micro aussi au printemps l'historien Benjamin Stora, auteur lui de 68 et après, les héritages égarés chez Stock.
pendant très longtemps, j'ai pensé en écrivant « nous » et très peu « je ». Il y avait « nous pensons que », »,« nous avançons », »,« nous décidons ». Il n'y avait pas la possibilité, ou très faiblement, la possibilité d'expression d'une personnalité intime. Par exemple, en militant tout au long des années 70, je ne savais pas que mes camarades de combat étaient fils de généraux, de banquiers. Moi, j'étais fils d'ouvrier. Mais les différences sociales d'origine étaient totalement gommées. Pourquoi ? Ben parce qu'on parlait de manière collective.
Voilà, Benjamin Stora, sur ses années de militance post-68arde et notamment à travers la négation de l'individu au profit du groupe, c'est donc le retour du jeu. Rien de plus étonnant, c'est un jeu qui est aussi en phase avec l'époque actuelle pour vous, Jean-Pierre Le Goff.
Je crois pas. Avec l'époque actuelle, non. Pourquoi ? Parce qu'on a changé d'époque. C'est un jeu qui est inséré dans un contexte social historique. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas l'intimité, si vous voulez. Le déballage, on en a tous les jours. C'est comment, finalement, une subjectivité adolescente s'insère dans un moment social historique, avec son contexte. Bon, je pense que la différence est très importante. D'abord, du point de vue, n'oublions jamais que dans les années 60, on est dans la dynamique des Trente Glorieuses. Et il faut faire attention aux lectures rétrospectives, notamment écologiques, sur cette période, sans parler de voir déjà le féminisme en œuvre en 68. Donc on a toujours une tentative de relire à partir d'un point d'arrivée. Ce que j'ai voulu, c'est déplacer le problème, parce qu'on a beaucoup écrit, et j'ai beaucoup écrit sur ce que j'ai appelé l'héritage impossible de mai 68, et j'ai voulu montrer, par contre, la France d'hier, c'est-à-dire ce qu'elle était et comment des contradictions, on ne comprend pas finalement, pardon, mai 68, sans prendre en compte les contradictions qui se sont accumulées avant mai 68, et notamment du point de vue de ce passage brusque à une modernité extrêmement rapide. Mmh. La France est sortie un peu des restes du 19e, un peu plus de 45-65, vous voyez, ça va très très vite. Et donc, il y a une espèce de déstabilisation. Et justement, un des problèmes de fond, c'est qui est posé, me semble-t-il, à travers mai 68, c'est que l'équilibre dont je parlais tout à l'heure, entre une certaine filiation historique, entre une espèce d'identité narrative, on peut dire, puisque c'est l'histoire de la France, et pour Mendès, c'était la République moderne, mais c'était dans la filiation de la République. Pour De Gaulle, il remontait plus loin, puisque c'est la France quasiment de Jeanne d'Arc. Et en même temps, la France devait épouser son siècle. Voilà le pari des élites modernisatrices. Maintenir le lien tout en modernisant le pays. Or, il se trouve qu'avec la société de consommation et de loisirs, et une nouvelle mentalité hédoniste de bonheur plus individualiste, disons, qui s'est développée, et qui a légèrement déséquilibré. Moi, j'ai été élevé, si vous voulez, avec les souvenirs de la guerre encore, avec le mythe gaulien, le sacré gaulien, les sacrifices, le dévouement, la résistance. Et en même temps, au même moment, je cite dans mon livre, évidemment, l'exemple type, c'est le discours de Malraux au Panthéon, entre ici Jean Moulin, avec ton terrible cortège, et là, on a affaire à la Gestapo, au camp de concentration. Et en même temps, c'est la même époque où vous avez le yéyé et le rock, et la nouvelle culture adolescente. Voilà la contradiction de cette époque, cette tension, si vous voulez.
Juste un mot sur le choix du titre, mais les mots ont leur importance, de Benjamin Stora, les héritages égarés. Vous parlez dans cet ouvrage paru en 98 d'héritage impossible. Il est ressorti en 2006 avec une postface augmentée. Mais 68 n'appartient à personne. Alors il en est où cet héritage ? Il est totalement égaré, il est récupérable, il est partagé.
Il a eu un destin, si vous voulez. Je pense que l'héritage impossible est marqué par un certain nombre de traits, notamment le fait que tout ce qui vient d'en bas est nécessairement bien par rapport à ce qui vient d'en haut, qui est synonyme de domination, l'institution égale pouvoir, égale aliénation. Il est aussi marqué par une histoire noire de notre propre civilisation et de notre propre histoire, qui va déboucher sur une histoire pénitentielle. Mais j'insisterai sur un point par rapport à la période actuelle, c'est que dans l'après-mai, c'est-à-dire ça va aller très vite après mai 68, l'héritage impossible est marqué par une dynamique de transgression. Il y a une dynamique de transgression avec, à mon sens, une part de nihiliste, on pourrait en discuter, mais elle est à l'intérieur de la société. Elle ne demande pas à l'État, donnez-nous les moyens d'être des révoltés. Vous voyez, c'est pas du tout cette dynamique-là. Et pourquoi ? Parce que l'État, à ce moment-là, est conçu comme un outil de domination. Donc, il y a une dynamique autonome avec, moi, à mon avis, le meilleur, si vous voulez, de 68, parce qu'il y a beaucoup d'héritage impossible, c'est « ne me libère pas, je m'en charge ». c'est-à-dire la revendication d'une autonomie à l'intérieur de la société, face à l'État. Et à l'époque, cette dynamique transgressive a un sens. Pourquoi ? Parce qu'on a des grandes figures en face, parce qu'on a des interdits, parce qu'on a des tabous. La question qu'il faut poser, c'est qu'est-ce que devient cette dynamique dans une société devenue pernicieuse ? Et c'est la figure quand même du rebelle institutionnalisé. Voyez, et là on a complètement changé de registre, c'est-à-dire il y a à la fois des éléments de continuité par rapport à cette culture adolescente, puisque l'héritage impossible de mai 68 est marqué par une l'adolescence qui n'est plus simplement une culture, le rock, mais c'est la prétention, par exemple, de faire de la politique à partir du rock. Moi, j'aime beaucoup le rock, le jazz, etc. Mais je distinguerai le registre, si vous voulez, de l'esthétique du registre de la politique, par exemple. Or, ça forme un grand tout. Et le modèle de la révolte adolescente, c'est du moins mon hypothèse, va devenir, pas simplement une période transitoire de la vie, ça va briser tout ça, une structure sociale de comportement fortement valorisée, c'est-à-dire le rêve, l'imagination, tout est possible et tout est ouvert, même à 60, 70 ans, on peut changer sans arrêt, et ça je pense que l'héritage impossible de mai 68, qui a élevé le modèle de la révolte adolescente en nouveau type de comportement, d'idéal type d'individu, est un défi pour la démocratie qui suppose d'une certaine façon une éthique de responsabilité. Tout n'est pas ouvert, tout n'est pas possible à tout moment.
Et cette adolescence, hier, avait son âge, avait son temps. Aujourd'hui, vous l'écrivez, l'adolescence n'a qu'un temps, contrairement à ce qu'on veut faire croire, veut nous faire croire la société moderne. On est adolescent éternellement. Mai 68, ni cause de tous nos maux, ni mythe fondateur. C'était une révolution adolescente, avant tout une libération salutaire. Une révolte de la jeunesse. Extrait de Chronique d'un été de Jean Rouch avec Edgar Morin.
Jean-Pierre, tu es étudiant, tu as 20 ans, et je me demande comment tu te débrouilles avec la vie.
Bon, c'est d'accord, je vis. Oui, je vis, effectivement. Je vis sans doute beaucoup mieux que ne vivent la plupart des étudiants de mon âge. Mais je vis, enfin, dans la mesure où j'accepte les compromis terribles. Bon, je vis seulement dans la mesure où j'accepte que les choses soient pas ce que j'avais envie qu'elles soient, dans la mesure où j'accepte quoi de me faire enculer, quoi. Y a pas de problème. Et je crois d'ailleurs que tous les types actuellement de mon âge, même d'ailleurs plus vieux, on arrive à vivre sereinement, si tu veux, que dans la mesure où ils ont accepté la nécessité de se faire enculer. Mais sinon, quand je te parle d'impuissance, enfin, ce sont des impuissances réelles, tu comprends, même, par exemple, le fait que je me fasse coller à mes examens. On s'aperçoit, enfin je suis obligé de m'apercevoir, enfin je sais pas si tout le monde s'en aperçoit, enfin moi je suis obligé de m'apercevoir, enfin que tout est fait de demi-teinte, des tons très neutres. C'est pas du noir et blanc, c'est du gris sur gris, un peu plus foncé, un peu moins foncé. C'est emmerdant, tu comprends ?
Voilà, à cette époque-là, quand même, Jean-Pierre Le Goff, on parlait déjà d'ennui, on s'emmerdait, on se débrouillait avec la vie. À cette question, êtes-vous heureux ? Vous auriez répondu quoi à 17 ans, à Caen, en mai 68 ?
En mai 68, on était déjà plus heureux qu'avant mai 68. Pour une bonne raison, c'est quand vous êtes étudiant, je pense que c'est Raymond Aron qui parle du milieu étudiant comme le milieu d'une foule solitaire. La foule solitaire, c'est un ouvrage d'un sociologue américain où vous avez des individus, et avant mai 68, on était très solitaires, on était dans des réseaux de bandes de copains, etc., assez révoltés, mais une difficulté à faire exprimer cette révolte adolescente. Et quand vous vous retrouvez dans une manifestation, c'est assez fusionnel. Alors à partir de là, vous pouvez partir dans l'utopie joyeuse, sans pour autant vous poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec le réel. Et c'est en gros ce qu'il s'est passé, je parle bien de la commune étudiante, je ne me parle pas de la grève ouvrière. Le problème de mai 68, c'est un mouvement iconoclaste à multiples facettes.
Et ça c'était un problème. Pourquoi c'était un
problème ? Ce n'est pas un problème, c'est que chacun a raison, chacun voit mai 68 à sa porte. La question qu'il faut se poser, c'est quelle est l'interprétation ? Est-ce qu'on peut, oui ou non, il y a une interprétation globale ? L'hypothèse que je fais, c'est que dans cette marmite bouillonnante de mai 68, avec des catégories sociales différentes, ce qui fait l'unité du tout n'est pas recherché dans le contenu, dans un contenu structuré et cohérent de la parole, mais dans un festival de la parole, pour reprendre l'expression de Pierre Nora, avec une dimension catharsique et psychodrame très forte. On rejoue la révolution, alors que la révolution est introuvable dans cette nouvelle société de consommation. En même temps, on craint cette nouvelle « Cours camarade, le vieux monde est derrière toi », mais en même temps, attention, société d'aliénation, de robots, on est véritablement dans l'entre-deux. Et poser d'une façon confuse, mais poser, à mon sens, la question, Eh bien, la société a changé, mais c'est quoi la modernité? Voyons, sommes-nous heureux dans ce nouveau monde?
Vous évoquez l'irruption de ce peuple adolescent dans la France d'hier comme une nouvelle structure de comportement social. Cette culture adolescente qui a irrigué toute la société. Qu'est-ce que mai 68 a fait à la jeunesse d'aujourd'hui encore, Jean-Pierre Le Goff?
Je pense qu'on ne peut plus parler de la jeunesse. Et que, par exemple, j'ai discuté avec une jeune femme de l'UNEF qui parlait au nom des jeunes. Mais enfin, faut regarder ce que représente aujourd'hui l'UNEF, si vous voulez. C'est pas du tout la même vision. Je sais pas, mais enfin, le premier parti de la jeunesse en termes de vote, vous savez qui c'est quand même? C'est le Front National. Alors, quand j'entends des, j'appelle ça les héritiers impossibles de mai 68, c'est eux la jeunesse. C'est-à-dire, ils sont restés. On leur a transmis un imaginaire qui, à mon avis, est un héritage impossible, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à rompre, j'allais dire, le cordon ombilical avec des, un certain nombre de représentations utopiques qui peuvent paraître joyeuses au regard de la situation actuelle, mais qui, d'un point de vue politique, et j'insiste beaucoup sur ce côté-là, sont une impasse. L'exemple typique pour moi, c'est Nuit debout.
Cet ancien monde, il offrait quand même à la jeunesse quelques idéaux que le nouveau monde n'offre plus aujourd'hui pour vous, le chômage à la clé aussi.
Il y a deux choses, il y a le chômage de masse, c'est-à-dire, en plus surtout, il n'y a pas d'avenir discernable, si vous voulez. Il y avait l'idée de progrès, c'est-à-dire, il y avait l'idée de socialisme, il y avait l'idée qu'on pouvait parvenir à une société autre. Et ça, ça crée une dynamique historique. Bon, tout ça aujourd'hui est en morceaux, ce n'est pas du tout, c'est un constat. Les grandes idéologies, je pense qu'on peut dire, c'est positif, mais en même temps, on y a perdu du point de vue du politique. C'est-à-dire, on est passé des grandes idéologies, des grands récits historiques, à une forme de repli individualiste, si vous voulez, sans retrouver forcément la dimension de la dynamique collective. Elle peut se chercher aujourd'hui, mais on a beaucoup plus de mal à la trouver.
Il n'y a plus de cohérence, en somme.
Alors, moi, je prends souvent l'exemple, dans les conférences que j'ai faites, de la jeunesse qui est sur un terrain vague, avec beaucoup de ruines, vous voyez. Alors, des pierres différentes, de différents monuments anciens. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle prend une pierre, elle peut être bleue, elle prend une autre pierre, elle est rouge, une autre pierre, elle est verte, et elle essaie de se construire une colonne vertébrale. Ce qui correspond d'ailleurs, c'est une colonne vertébrale, je dirais, un peu patchwork, comme la société elle-même est morcelée. Et pour une génération comme moi qui a été élevée plutôt dans les anciens récits idéologiques à forte cohérence, un peu folle d'ailleurs, hein, au point de vue idéologique, c'est très difficile parce que vous êtes confronté sans cesse à cette question, mais où est le problème là où vous-même, vous voyez un principe d'incohérence? Eh bien, il n'y en a pas. Et donc, ce qu'il faut comprendre dans cette condition de la postmodernité, parce qu'on a vraiment changé de monde, c'est qu'on peut dire des choses, affirmer une chose, affirmer son contraire, sans forcément qu'il y ait un grand principe de cohérence à la fois dans les pensées, dans les paroles et dans les actes. Mais ça commence en 68, on rejoue les barricades, on ressort le drapeau rouge et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a les congés. J'ai discuté par exemple avec le préfet Grimaud au moment de la reprise de la Sorbonne ou de l'Odéon. Il n'y a pas eu d'affrontement. Il restait plus personne. Et vous savez qu'à chaque fois, ça repart sur la révolution qui vient, la radicalité, et à chaque fois arrive le mois de juillet. C'est-à-dire, on critique beaucoup la société de consommation, on est radical, on rêve d'une rupture radicale, mais en même temps, eh bien, ma foi, on s'y accommode aussi. Et ça commence un peu en 68, si vous voulez. Le vrai problème n'est pas, à mon sens, dans la rupture, il est de s'interroger sur la signification de ce bouleversement du monde et de changement de civilisation.
Nuit debout, vous trouvez que c'est les médias qu'on a un tout petit peu trop fait, quand même?
Écoutez, il y avait un moment, vous ouvriez...
Il y avait un romantisme, Nuit debout.
Vous ouvriez la radio, la télévision, ça s'ouvrait sur Nuit debout. Donc, la France entière vivait à l'heure debout, place de la République. Mais, moi, j'étais en province à ce moment-là, je peux vous dire que le décalage était énorme, énorme. Et il y a une tentative pour essayer...
Ça n'a pas été qu'à Paris, hein, Nuit debout.
Moi, j'étais dans un village, je veux dire, ils ont essayé avec... Enfin, bon... C'était totalement coupé, notamment quand même, de tous des couches populaires, la gauche quand même, pour moi. Elle reste liée à la question sociale. Elle l'a abandonnée au profit de ce que j'appelle le gauchisme culturel comme élément structurant et démarquant de l'identité, ce à quoi je m'y oppose, mais c'est comme ça. Bon, la gauche a évolué comme ça. Elle n'a pas vu qu'en même temps, avec son incapacité aussi à réduire le chômage de masse et ce gauchisme culturel, elle s'est complètement coupée. C'est un élément des couches populaires. Voilà. Et donc, Nuit debout, pour moi, c'est la caricature de l'utopie qui évidemment a à voir avec 68, une société fonctionnement à l'horizontale, sans institution, sans rien qui dépasse dans la verticalité, parce que la verticalité égale domination, aliénation, Et dans la transparence où chacun est à l'égalité avec tout le monde, on peut discuter de tout et ça s'appelle le fondement de la politique. Eh bien non, en démocratie, la politique ce n'est pas ça. C'est d'abord un état de droit et c'est une démocratie représentative.
Mais
la démocratie
des anciens ne fonctionne pas. 50 ans après Jean-Pierre Le Goff, réveiller des utopies, c'est complètement anachronique.
Bah, ce que vous appelez utopie, généralement on le confond avec l'idéal. Moi je trouve que oui, l'utopie, c'est hors du temps. Ça permet de rêver, si vous voulez. Moi, je préfère parler d'idéal. Et d'idéal, oui, on peut, c'est mon cas, critiquer, voir les impasses de l'utopie. Et je les ai vécues, si vous voulez. Ça fait 50 ans qu'on parle de cette nouvelle société organisée où tout le monde serait à égalité dans le débat, etc., qui sous-estime les démocraties modernes, qui sous-estime ce qu'est la démocratie moderne. Et je pense que là, c'est une utopie qui a été vécue dans le présent. Ça donne un temps intense. C'est quand même très joyeux, si vous voulez. Il y a de la rencontre, on discute. Mais de là à y voir une grande portée transformatrice politique, ça fait 50 ans qu'on le dit et je n'y crois pas. Restent les idéaux. Et les idéaux, notamment républicains, qui pour moi sont importants.
Alors qu'Emmanuel Macron sera ce soir au congrès à Versailles, lui sera à Montpellier pour y recevoir son prix. France Culture, Le Monde de l'essai, prix Pétrarque qui vous sera remis tout à l'heure. Jean-Pierre Le Goff, vous restez avec nous pour la deuxième partie des matins. France Culture, il est 8h.